Écho d'économie, Georges Kamoudjova.
Toute l'équipe vous dit bienvenue. L'équipe, c'est Agathe Pona d'abord qui nous apportera les nouvelles économiques du pays.
Contre à résilier usine fermée, mais le feuilleton Kinga Miambo Musono Telling n'est pas clos. Les élus provinciaux du Katanga ont interpellé aujourd'hui les responsables de la Gécamine pour comprendre cette affaire qui laisse des centaines de personnes sans emploi à Kolwezi.
Et nous en parlons avec Paulin Munanga depuis Lubumbashi dans deux minutes.
Et EcoBank pourrait s'installer à Kindu. Ce sera la première banque commerciale là de depuis le départ de la BCDC il y a de cela 6 ans, reportage de Mathieu Ilunga.
À suivre en seconde partie de cette émission, et qui est responsable de l'instabilité actuelle du franc congolais, alors que les banques commerciales ont acheté près de 100 millions de dollars à la Banque centrale du Congo pour stabiliser le taux, nous invitons ce soir Michel Losembe, président de l'Association congolaise des banques, invité à suivre dans 10 minutes.
Suggestions et réactions, n'hésitez pas. Un clic. echo@radiookapi.net.
Agathe Mpona, la RDC accepte aujourd'hui aux Pays-Bas les règles de Rotterdam.
Cette nouvelle convention des Nations Unies établit et modernise les nouvelles normes en matière de transport maritime. Les différentes zones de loi imposées jusque-là par les grands pays maritimes tombent pour céder place à cette nouvelle convention. Et Kinshasa a été parmi les rédacteurs de cet instrument juridique dont les négociations ont duré 4 ans.
Invité à suivre demain matin sur nos antennes, Émile Ngoyi, patron de l'OGFREM. Katanga Mining acquiert complètement Coal.
Coal, c'est Kamoto Operating Limited, un opérateur minier détenu en partie par le groupe Forest. Il vient d'être avalé par Katanga Mining, moyennant paiement de plus d'1,5 million de dollars. Le versement est déjà fait, mentionne aujourd'hui un communiqué de la compagnie, et voilà qui renforce la stature du Katanga Mining après acquisition de l'usine hydrométallurgique de Luilu et du concentrateur de Kamoto il y a 2 mois. L'entreprise vise à atteindre une production annuelle de 150 000 tonnes de cuivre dans 2 ans.
Et au Bas-Congo, la province double son budget en 2010.
228 milliards de francs congolais, ce projet de budget a été déposé hier mardi à l'Assemblée provinciale par le ministre provincial du budget. Romain Potongumba a indiqué que la province maintient les mêmes orientations qu'en 2009. Un accent particulier est quand même mis sur les actions en cours d'exécution amorcées en 2007, en 2008 et en 2009 en vue de leur achèvement.
Et dans la même province, comment développer le tourisme?
C'est le but de la visite qu'effectue depuis hier mardi à Matadi une délégation d'investisseurs sud-africains. Spécialisés dans le domaine touristique, ces investisseurs sud-africains ont visité le site Ciné Palace dans la ville portuaire où ils comptent construire un hôtel de luxe. Ils visiteront aussi le village Ntiamfumu et Banana dans le territoire de Mwanda où ils envisagent là la construction de plusieurs hôtels.
Terminons par le Kassai Oriental. Une commission de l'Assemblée provinciale enquêtera sur la tarification de l'électricité de la société privée Hydrofort Congo.
L'Assemblée provinciale veut également enquêter sur la convention qui lie Hydrofort Congo à la MIBA. La décision a été prise hier à l'issue de la question orale qui avait été adressée au ministre provincial de l'énergie. Pour rappel, lors d'une rencontre avec une délégation venue de Kinshasa, Georges, rappelons-nous qu'Hydroforce avait promis de faire le kilowattheure à 15 cents au lieu de 23 cents actuellement. Cette révision qui devait entrer en vigueur il y a 20 jours se fait toujours attendre.
La nouvelle économique au bout du fil.
Au bout du fil, on retrouve Paulin Munanga Kisimba depuis Lubumbashi, où les députés provinciaux se sont intéressés à la plénière d'aujourd'hui au dossier de résiliation de KMT Kinga Miambo Musono Itelings, dont le contrat a été résilié par le gouvernement. Alors, Paulin Munanga Kisimba, vous avez assisté à cette plénière, bon, qui vient un peu tard parce que la décision a été prise au niveau du gouvernement central. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Oui, bonsoir Georges Kamoudjova. La plénière de ce mercredi, l'administrateur directeur général adjoint de la Gécamine a été interpellé. Était aussi présent Madame le maire de Kolwezi et les responsables de l'entreprise KMT. L'ADGA de la Gécamine, Monsieur Calixte Mukasa, a relevé quelques points de convergence et de divergence qui ont animé ces partenariats.
Alors, quels sont les points de convergence d'après la Gécamine?
Oui, il y a par exemple le pas des portes que KMT devrait verser à la GECAMINE. Fixé initialement à 80 millions de dollars américains, les deux parties sont finalement arrivées à un accord et KMT devrait verser 36,5 millions de dollars américains. Il y a aussi la révision à la hausse du capital social de KMT. Il est passé de 50 000 dollars américains à 17 millions de dollars américains.
Et les points de divergence, Paulin, ils étaient nombreux, paraît-il.
Effectivement, Georges, il y a surtout les royalties que KMT devrait verser à la GECAMINE pour chaque tonne de minerais exporté.
Ouais.
Ces redevances minières ont été fixées à 2,5%. Mais KMT a réservé une fin de non-recevoir à ce sujet. L'autre point de divergence, c'est la demande de la GECAMINE de participer au comité de gestion de KMT. Là aussi, cette entreprise minière a refusé catégoriquement. Sur la participation du capital social que KMT versait, la GECAMINE a exigé qu'elle passe de 12,5% à 35%, mais KMT n'a pas été d'accord.
Voilà, là sont les arguments de la GECAMINE et l'Assemblée provinciale du Katanga. Elle dit quoi finalement?
D'abord, les députés provinciaux ont plaidé pour la renégociation du contrat KMT car son investissement est important et qu'il faut éviter d'alourdir les taux de chômage. L'Assemblée préconise une descente sur terrain à Kolwezi d'une commission pour palper du doigt la réalité. Signalons, Georges, que la GECAMINE refuse, elle, de parler encore des négociations.
Un feuilleton apparemment qui n'est pas terminé. Merci beaucoup, Paulin Munanga Kisimba, et bonne soirée à Lubumbashi, particulièrement à ceux qui nous écoutent à Kilobe Lobe.
Info économique en Afrique et à travers le monde.
Agathe Mpona, une seule info, les cours du brut de pétrole, les cours du pétrole descendent à 68 dollars.
Les cours du brut plongeaient de 3 dollars en fin d'échange européen, déprimés par l'annonce d'une hausse massive des réserves pétrolières américaines. Les opérateurs restent toutefois sous leur garde avant les commentaires de la réserve fédérale américaine.
Merci beaucoup Agathe. Écho d'économie sur Radio Capi, tout de suite dans sa seconde partie qui se tourne sur le maniement. Et au Maniema, une délégation du ministère des Finances en séjour à Kindu pour préparer l'implantation de EcoBank. Le Maniema qui n'a aucune banque commerciale depuis 6 ans, eh ben, cette nouvelle enchante les opérateurs économiques de la province qui, à la place d'une banque commerciale, commençait à n'utiliser que les agences de transfert comme Soficom et Mr Cash. Mais l'implantation d'EcoBank à Kindu est beaucoup plus motivée par un programme d'appui à l'agriculture. Un reportage de Mathieu Ilunga au Monachebe.
Éco-reportage.
C'est depuis dimanche passé que la délégation des 4 personnes conduite par M. Seley Alagouli, conseiller en charge des coopérations bilatérales et multilatérales au ministère des Finances au gouvernement central, est à Kindu. L'objet de la mission est double. Faire le suivi du projet intégré de réhabilitation de l'agriculture au Maniema, Puram en sigle. Ensuite, l'étude de la possibilité de l'implantation de la succursale de l'EcoBank à Kindu. M. Seley Alagouli explique le rapport entre l'implantation de cette banque et Puram.
Le gouvernement, au travers du ministère des Finances, a identifier EcoBank pour ouvrir une agence ici à Kindu de manière à recueillir les financements en provenance des deux bailleurs de fonds qui appuient ces programmes. Il s'agit du Fonds international pour le développement de l'agriculture, le FIDA en sigle, ainsi que les fonds OPEP. Donc voilà la relation directe qu'il y a entre le programme Piram et EcoBank en tant que banque commerciale qui devra recueillir les ressources octroyées par les partenaires.
Mais cela ne veut pas dire que cette banque ne servira que Piram. Elle sera pour tout celui qui est en ordre avec les opérations bancaire en commençant par l'ouverture d'un compte, c'est les Yalagouli.
EcoBank à Kindu, ce n'est pas seulement pour les pirates, mais ça va bénéficier à l'ensemble des opérateurs économiques, permettre à l'économie de la province de pouvoir prendre un nouvel élan sur base des activités et des services qu'offre toute banque commerciale et qui fait défaut. Nous nous sommes rendus compte que les opérateurs économiques de Kindu, les humanitaires qui opèrent ici dans la province du Maniema, disposent des comptes bancaires au niveau de Goma dans la province du Nord Kivu.
Cette explication a été confirmé par M. Placide Lenguelo, directeur des agences EcoBank en RDC.
Nous sommes venus avec la délégation du ministère pour pouvoir évaluer comment effectivement s'installer à Kinshasa. Le PIRAM est un élément déclencheur, mais il faut que les opérations de la banque puissent profiter évidemment à d'autres opérateurs économiques, aux humanitaires, ainsi que aux populations. Donc il s'agit maintenant pour nous de voir dans quelle mesure nous pouvons intégrer tous les paramètres-là dans notre analyse. Nous essayons de mettre tout en place pour que nous puissions justifier l'ouverture le plus rapidement possible d'une succursale EcoBank à Kindu.
Signalons que les opérateurs économiques ainsi que la société civile sont très contents de la nouvelle. C'est le cas, par exemple, du groupe Beltexco, qui disait que la difficulté qu'il avait à fonctionner à Kindu était l'absence d'une banque commerciale. Après la séance de travail avec la FEC ce soir, demain, ça sera le tour de la société civile. La fin de la mission est prévue pour vendredi 25 septembre 2009. Kindu, Mathieu Longachambo, Monatiebe pour Eco d'économie.
L'entretien de ce soir.
L'invité de l'économie ce soir est Michel Losembe. Michel Losembe, vous êtes président de l'Association congolaise des banques commerciales. En fait, vous représentez les banques commerciales de la RDC, les banques commerciales congolaises qui ont bénéficié des opérations des ventes des devises par la BCC depuis 5 mois, des ventes des dollars qui avaient pour objectif de stabiliser le franc congolais. Et demain, ce sera peut-être la 12e vente, mais en 11 ventes, on se rend compte que le franc congolais n'a pas arrêté de se déprécier. Quelle est la responsabilité des banques commerciales dans cette instabilité de la monnaie nationale?
La question, la manière dont vous la posez ne s'adapte pas tout à fait à la réalité de la situation. Il est vrai que la Banque centrale est effectuée un certain nombre d'adjudications à travers les banques commerciales. Ces adjudications ont pour valeur moyenne une dizaine de millions de dollars par session. Et il y a 2 sessions par mois qui n'ont pas été tenues de manière très régulière depuis le début de l'année. L'économie, d'après les chiffres que nous avons, a besoin en matière d'importation de biens et de services, une moyenne de entre 50 à 60 millions de dollars par mois, ce qui fait que les adjudications de la Banque centrale sont de toute manière largement insuffisantes pour satisfaire la demande du marché.
Et c'est seulement ce manque de devises qui rend le franc congolais instable?
Par définition, oui. C'est le mécanisme d'offre de la demande qui détermine le prix, donc le taux de change de la monnaie. Et les difficultés que sont en train de traverser l'économie congolaise et ont traversé l'année passée des suites de la crise financière, de la récession globale, font que notre économie est fortement déséquilibrée. Tous nos biens à l'exportation ne sont pas demandés, donc les prix de nos matières, que ce soit le cuivre, le diamant, le pétrole, le bois, ont fortement chuté et ont découragé les activités économiques dans ce secteur-là. Alors que pendant la même période de temps, nos besoins en biens et services pour nourrir une population de 60 millions d'habitants et faire face aux obligations du gouvernement et du secteur privé restent très élevés. Donc la balance des paiements de la République est très déséquilibrée et ça crée une incidence directe sur le taux de change.
Bah oui, mais cette balance, en fait, c'est rare qu'on ait des exportations supérieures ou un équilibre aux importations. Est-ce que c'est la seule justification dans la dégringolade du franc congolais constatée ces dernières semaines?
Ces dernières semaines, on ne pourra pas parler de dégringolade. Le taux de change aujourd'hui est à peu près à 850 francs congolais pour un dollar. Il était à ce niveau-là en janvier. La monnaie s'est appréciée légèrement au milieu de l'année à peu près. Et aujourd'hui, nous revenons au taux de change qui prévalait au premier trimestre de cette année-ci. Donc nous ne pourrons pas vraiment parler de dégringolade. Nous parlons peut-être d'un glissement qui s'effectuait depuis entre le mois d'août jusqu'à maintenant. Une des raisons importantes aussi qui justifie le fait que la monnaie nationale réagisse aussi violemment dès qu'il y a des paramètres de marché qui changent est le phénomène de dollarisation. Parce que les flux monétaires qui se font en RDC restent essentiellement en monnaie étrangère, en dollars. Je pense que ça c'est rentré très largement dans les mœurs aussi bien des entreprises que du particulier, de toute la population.
En fait, ce que vous voulez dire, c'est que personne ne souhaite effectuer ces transactions en francs congolais.
Très peu de monde, effectivement. Et réfléchissez même à votre niveau personnel. Quand vous avez une recette en devise, la première chose que vous faites, c'est que vous la gardez en devise. Et comme la plupart des commerces font leurs ventes en devise et que la plupart des services facturent en devise, quand vous voulez payer votre facture de téléphone, vous voulez payer votre loyer, votre propriétaire vous adresse une facture en devise. Donc la recette en devise que vous avez ne va jamais être achetée de francs congolais. Donc la demande de francs congolais, effectivement, reste limitée à des activités du gouvernement. Et le gouvernement, en dépit de son chiffre qui augmente sur les dernières années, reste relativement marginal par rapport aux activités de l'ensemble de la République.
Et maintenant, quelle serait la porte de sortie immédiate selon vous?
Il n'y a pas de solution immédiate au taux de change. Les actions ponctuelles que le gouvernement peut prendre ne peuvent avoir comme conséquence que de calmer la surchauffe, mais ne peuvent pas résoudre de manière pérenne la stabilité du franc tant qu'il n'y aura pas derrière une économie solide. La porte de sortie reste celle que la logique impose, c'est-à-dire une reprise graduelle de l'activité économique à travers la reprise des investissements, l'amélioration de certaines politiques d'orientation économique du gouvernement et l'amélioration du climat des affaires qui va amener le secteur privé, local comme international, à relancer les activités et à encourager la reprise de l'activité économique. À ce moment-là, effectivement, il y a une demande intérieure qui se fait et qui sollicite la valeur du franc congolais et le remet dans une situation de stabilité et de soutenabilité plus efficace et moins volatile.
Michel Losembe, je rappelle, vous êtes président de l'Association congolaise des banques. Merci beaucoup de nous avoir parlé dans cette émission Écho d'économie réalisée par Daniel Tambinzoni, Agathe Pona sous la supervision de Ben Kabamba. Une mise en onde de Eddy Marquis. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée et à demain.